Et c'est l'heure de retrouver le journal de l'Écho de Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Un calme trompeur en Équateur. Après 12 jours de violentes manifestations, le président Moreno maintient finalement les subventions au carburant et calme la rue, mais il fragilise les relations de l'Équateur avec le FMI.
Oui, c'est bien la fin du blocage du pays avec un accord hier avec la principale organisation indigène impliquée. Le président ne supprimera pas les subventions au carburant comme il l'avait annoncé par décret au début du mois. Une commission sera chargée d'étudier de nouvelles mesures, mais l'équilibre est délicat puisque la suppression de ces subventions était une condition d'un prêt du FMI de 4 milliards 200 millions de dollars conclu en mars, le FMI considérant que ces subventions pesaient trop avec 1,3 milliard par an sur le budget équatorien. Mais dans un pays où 65% des pauvres sont indigènes, eh bien la suppression de ces subventions avait aussi entraîné une flambée des prix, notamment de l'essence. La mobilisation massive a contraint donc le président Moreno à reculer. Mais entre la rue et les exigences du FMI, la voie est assez étroite. Écoutez ce qu'en disait Jean-François Ponceau. Il est professeur de sciences économiques à l'université Grenoble-Alpes et spécialiste de l'Équateur.
Là, à mon sens, par rapport à l'accord signé avec le FMI, il y a deux possibilités. Soit l'accord du FMI est maintenu, mais il faut trouver ce 1,3 milliard par an de recettes. Donc ça veut dire par exemple qu'il faut diminuer les avantages fiscaux qui ont été accordés dans le cadre de cette réforme aux exportateurs de bananes par exemple. Donc on voit la première option risque d'entraîner des mécontentements chez d'autres catégories de la population. L'autre option, c'est l'option de la renégociation avec le FMI en disant bon voilà, il y a un problème de effectivement un soulèvement social qui entraîne le fait qu'on doit rayer 1,3 milliard de dollars de recettes par an. C'est pas exclu à mon sens parce que il y a une nouvelle présidente à la direction du FMI, Kristalina Georgieva. Donc il est possible qu'il y ait une nouvelle gouvernance ou une nouvelle doctrine qui se met en place, même si je ne suis pas très optimiste là-dessus. Et puis d'autre part, s'il y a quand même eu de la part du FMI, des marchés financiers internationaux ou de pays comme les États-Unis, véritablement une sous-estimation de la capacité des peuples d'Amérique latine à soulever face à des mesures d'austérité aussi radicales. Et peut-être qu'il y aura un recul par rapport au plan d'ajustement qui a été défini préalablement.
Un consensus précaire, d'autant que la deuxième partie des exigences du FMI tient toujours une réforme fiscale et une réforme du marché du travail, Xavier.
Oui, c'est celle qui doit notamment ramener de 30 à 15 le nombre de jours de congés annuels des fonctionnaires, ce qui n'est pas sans risque social, alors que plusieurs gouvernements équatoriens ont été renversés par soulèvements sociaux. Alors le FMI en tiendra-t-il compte? C'est important, d'autant que se pose aussi en arrière-plan l'iceberg de l'Argentine avec un prêt, là, 10 fois plus important que pour l'Équateur. Excusez-moi, là c'est 57 milliards de dollars.
On passe au bref avant d'en venir au Nobel, peut-être un accord commercial à minima entre la Chine et les États-Unis. En tout cas, pour l'instant, une trêve dans les hostilités.
Et le feuilleton continue avec la Maison-Blanche qui a annoncé vendredi un accord de première partie de phase 1, principalement sur des produits agricoles pour 40 à 50 milliards de dollars. En échange, Washington renonce à augmenter ses taxes de 25 à 30% sur les 250 milliards de dollars d'importation chinoise. Et Trump déclare ainsi que les agriculteurs américains ont touché, je cite, le gros lot, mais on apprend aujourd'hui que Pékin demande des discussions supplémentaires, signature peut-être au sommet de la PEC au Chili le 14 novembre.
Et on finit donc avec le prix de la Banque de Suède qui a été décerné ce matin. Ils sont trois à remporter ce qu'on appelle le prix Nobel de l'économie, deux Américains et la Française Esther Duflo.
Esther Duflo avec son collègue professeur au MIT Abhijit Banerjee et Michael Kremer de Harvard pour, je cite, leur nouvelle approche pour réduire la pauvreté dans le monde, concrètement en expérimentant localement et sur le terrain avec des ONG, les formes d'action les plus efficaces. Par exemple, pour Duflo et Banerjee, montrer l'impact des médicaments gratuits et des avantages en nature pour obtenir des taux de vaccination infantile record en Inde, ou pour Michael Kremer au Kenya, montrer que l'augmentation des moyens seuls ne suffit pas à augmenter le niveau d'éducation dans les pays en développement. Une reconnaissance donc pour cette économie du développement pas récompensée depuis 50 ans, vous en parliez la semaine dernière, Tiffaine, et pour les très très nombreuses femmes que ce prix va inspirer. Espérez sur Twitter Esther Duflo qui devient aussi le plus jeune prix Nobel d'économie de l'histoire.
Merci beaucoup Xavier Martinet. Une réaction peut-être en plateau, Hélène Périvier, que vous inspire cette reconnaissance des travaux d'Esther Duflo, de Michael Kremer, d'Abhijit Banerjee par la Banque de Suède?
Ah oui, c'est d'abord une reconnaissance de l'économie expérimentale, hein, donc ce qui est un grand tournant dans la discipline, qui a longtemps été théorique pour des raisons d'accès aux données aussi, hein, mais là en l'occurrence on crée ses propres données puisqu'on va faire ses expériences, ce qui permet à la fois d'avoir une approche pragmatique des politiques qu'on veut mettre en place, qu'est-ce qui marche vraiment sur le terrain. Après, le problème c'est que c'est difficilement à chaque fois généralisable, c'est toujours des approches qui vont permettre localement, dans ce contexte culturel-là, dans ce pays, eh bien par exemple il y avait cette étude sur payer l'uniforme des élèves qui vont à l'école au Kenya, ça permet d'augmenter le taux de scolarisation au lycée des filles et des garçons. Voilà, c'est ce genre de choses. Et du coup, c'est une approche assez de terrain de l'économie.
Et c'est une mise en valeur des travaux sur la réduction de la pauvreté dans le monde. Thomas Bonin, qui est tout de même un bon signal.
Tout à fait. Moi, j'avoue être très enthousiaste à entendre donc ces trois noms sortir pour le Nobel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait l'économie avait déjà recours à l'économie expérimentale, donc on était dans les laboratoires, on essayait de tester des résultats et des prédictions théoriques. Ce qu'ont fait ces trois personnes avec d'autres, c'est de faire sortir l'économie expérimentale du laboratoire pour l'amener sur les terrains d'études, alors évidemment de manière très spécialisée sur des questions très ponctuelles, mais on a pu mesurer beaucoup plus finement quelles politiques de lutte contre la pauvreté fonctionnent, lesquelles fonctionnent beaucoup moins bien, et donc ça montre un peu aussi comment les économistes peuvent participer au bien commun puisque les politiques proposées sont très efficaces.